France, Russie, anatomie d'une passion.
La fermeté de Macron dans le dossier ukrainien et les menaces de Poutine font plonger la relation entre la France et la Russie dans des eaux dangereuses, des relations glaciales, un nouveau chapitre d'une longue histoire passionnelle qui lie les deux pays, les deux peuples.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historienne Sabine Dulin.
Épisode 4, la France face à la révolution russe.
L'URSS n'est pas ce que nous espérions qu'elle serait, ce qu'elle avait promis d'être, ce qu'elle s'efforce encore de paraître. Elle a trahi tous nos espoirs. Tu nous montres dans quel sable une révolution peut s'enliser. André Gide, retouche à mon retour de l'URSS, 1937. On poursuit avec l'historienne Sabine Dulin notre conversation sur les relations passionnelles entre la France et la Russie. Désormais, la Russie, c'est l'URSS, puisque la révolution russe a eu lieu. On va revenir sur la révolution russe. Un mot sur André Gide d'abord. Ce voyage-là, c'est un peu l'inverse du voyage de Custine qu'on évoquait, ou même l'équivalent du voyage de Custine de 1839. Un intellectuel qui va en Russie en espérant y trouver ce qu'il avait en tête et qui découvre autre chose. Dites-nous, en deux mots d'abord, avant de remonter un petit peu quand même à l'origine, parce qu'il part de la Révolution, on va revenir sur la Révolution russe bien sûr et son lien avec la France, mais on est en 1937, que voit André Gide à ce moment-là en Russie ou en URSS?
Effectivement, Gide fait partie de tous ces voyageurs qui sont allés voir la Russie en compagnon de route, en espérant y voir effectivement la promesse du socialisme réalisée. Et il revient en disant que nulle part ailleurs, il n'a vu un peuple plus terrorisé, en fait. Vassalisé. Il va même jusqu'à dire que plus qu'en Allemagne nazie.
Oui.
Ce qui, évidemment, va déclencher les foudres de tous ceux qui considèrent que son témoignage pourrait être pris à contre-temps, puisqu'on est dans la période de l'antifascisme, etc. Mais ce n'est pas le premier qui est un désillusionné du communisme. Oui. Il y en a depuis les années 20 qui écrivent comme lui, Emma Goldman, Panaïs Istrati. Il y a plein de gens qui ont écrit leur désillusion. Mais il est très connu, c'est un écrivain très connu. Et il a tout de suite, du coup, un retentissement énorme. Et donc, évidemment, il va y avoir une campagne des communistes en France qui le traitent de renégat, de valet du trotskisme, etc.
Parce que, alors, je vais deux, trois notes de bas de page. Vous avez dit le mot compagnon de route. Pour des gens qui nous écoutent, ce n'est pas forcément une évidence. Ouais. C'est des gens qui n'ont pas la carte du Parti communiste, mais qui suivent, évidemment avec beaucoup d'intérêt, d'attention et d'admiration aussi, l'expérience, notamment soviétique. Donc c'est un compagnon de route désillusionné. Et puis, je précise aussi qu'il est accueilli en grande pompe en plus. C'est pas un voyage en douce, il est accueilli comme le grand écrivain français à qui on veut montrer en plus la grandeur de l'URSS. Et il revient alors encore plus choqué par ce qu'il a vu. Revenons, on va rembobiner un peu, parce que cette désillusion, elle naît d'une illusion. Et cette illusion, pour reprendre les mots de François Furet, c'est la révolution russe de 1917. Est-ce que cette révolution russe est aussi un des éléments à mettre dans le dossier des passions franco-russes?
Ah oui, ça, sans aucun doute. C'est-à-dire que au moment de la révolution russe, il y a plusieurs éléments qui jouent. Donc le premier, c'est bien sûr que la France, c'est le pays de la Révolution française et de toutes les révolutions qui ont eu lieu au XIXe siècle, notamment la Commune de Paris.
Très important, notamment pour Marx.
Voilà. Et Lénine, d'ailleurs, va esquisser un pas de danse en voyant que la Révolution bolchevique a duré plus longtemps que la Commune de Paris. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, chez les bolcheviques, qui ont pris la tête de la Révolution en octobre 1917, il y a vraiment l'idée qu'ils sont dans la filiation du mouvement ouvrier qui a eu ses heures de gloire en France depuis la Révolution française. Et d'ailleurs, les bolcheviques achèteront toutes les archives des grands révolutionnaires français du mouvement ouvrier, genre Blanqui, Babeuf.
Ah oui.
Toutes ces archives, elles sont à Moscou. C'est l'Institut du marxisme-léninisme qui achète toutes ces archives parce que, pour eux, la Russie est le légataire, en fait, de toute cette histoire du mouvement ouvrier marxiste, enfin, pré-marxiste et marxiste.
Et on n'oubliera pas que Lénine a passé quelques années à Paris, il y a des liens qui sont créés, construits à ce moment-là. Juste,
alors, en même temps, oui. Ça, c'est une image. C'est voilà. Donc, l'image de la France révolutionnaire. Mais en même temps, à l'époque, la France, elle apparaît du point de vue des révolutionnaires bolcheviques avant tout comme l'inverse, c'est-à-dire le comble de la bourgeoisie, de l'impérialisme.
Un pays petit bourgeois.
Le français, c'était justement la langue de l'aristocratie. Hein, donc, on ne peut pas dire qu'il y ait un grand succès de la France à l'époque, d'autant que, suite à la Révolution russe et au fait que Lénine a voulu sortir de la guerre,
oui, voilà.
La défaite, donc la défaite de l'armée russe face à l'Allemagne, mais du coup la signature d'une paix séparée, qui est, du point de vue français, la trahison de l'alliance, la fameuse alliance franco-russe. Mmh. Donc, la paix de Brest-Litovsk, qui est signée entre l'Allemagne et les bolcheviks en mars 1918, est considérée comme une paix séparée, qui est une paix de traîtres. Et suite à ça, les Français vont intervenir, Clémenceau envoie des régiments pour maintenir un front contre l'Allemagne en Russie, mais aussi pour soutenir tous ceux qui veulent restaurer une Russie qui ne serait pas bolchevique.
Oui, ça c'est assez méconnu. C'est que la France entre en guerre, en fait, sans dire le mot, mais entre en guerre contre la Révolution russe, qui pourtant, on a vu, hein, des accointances avec une histoire française, mais pas avec le pouvoir en France à ce moment-là. Et la France va donc carrément, quasiment, entrer en guerre contre... Et ça va durer au-delà même de 1918.
Ça dure pendant toute la guerre civile, jusqu'en 1921.
Et après, donc il y a des soldats français...
Alors, c'est pas seulement les Français, hein. Il y a aussi les Anglais, les Japonais, les Américains. Donc, il y a une intervention étrangère... sur le sol russe. Alors, dans un premier temps, ce n'était pas véritablement contre les bolcheviks, c'était pour maintenir un front contre l'Allemagne. Pour éviter
qu'il y ait oriental.
Un front oriental. Pour éviter qu'il y ait seulement le front
En attendant que les Américains
occidental.
Arrivent.
Ouais. Voilà. Ça a été ça, la première... disons, le premier mouvement. Mais dans un deuxième temps, ça va être le soutien des Russes blancs qui veulent restaurer la monarchie.
Et qui sont nombreux en France.
Et qui sont nombreux, puisque beaucoup ont émigré, du coup, en France, après la Révolution russe.
Les fameux chauffeurs de taxi, je ne sais pas si c'est un peu une imagerie d'Épinal, c'est vrai ?
Oui, non, ouais. Bien sûr, il y a beaucoup d'émigrés qui cherchent un emploi dans la France des années 20. Ouais. Donc, il y a une forte émigration de toute l'ancienne noblesse, le clergé, enfin, tous ceux qui sont poursuivis par le régime bolchevique, la bourgeoisie. Et donc, il y a cette intervention étrangère sur le sol russe, en soutien aux Russes blancs, mais aussi en soutien à toutes les forces qui vont contre les bolcheviks, y compris la Pologne, toujours.
Toujours la Pologne. Hein,
puisque la Pologne de Piłsudski devient... Il va y avoir une guerre russo-polonaise en 1920. Et dans cette guerre, il y a déjà De Gaulle qui est un soutien.
Ouais.
Un jeune officier qui soutient la Pologne contre les bolcheviks.
Mais alors pourquoi est-ce que la France va reconnaître l'URSS si peu de temps après, en 1924 ?
Alors, parce que à la sortie de la guerre civile 1921, malgré tout, il y a une sorte d'impression de normalisation du régime soviétique. Et surtout en France, il y a l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1924 avec le cartel des gauches. Et c'est vrai que des gens comme Paul Boncourt, etc., Édouard Herriot, qui sont des radicaux, donc au centre de l'échiquier politique, mais plutôt centre-gauche, ont plutôt envie de normaliser les relations avec l'Union soviétique, aussi pour des raisons... On a la nouvelle politique économique lancée par Lénine pour essayer de restaurer, reconstruire le pays. Et donc, là aussi, les anciens propriétaires des usines en Russie pourraient bien pouvoir revenir pour aider à cette reconstruction.
Et je n'oublie pas nos millions de Français qui ont des bons du trésor franco-russe. Les emprunts russes, on en est où là ?
Ben justement, ça va être un des sujets de discussion permanent. Donc déjà, au moment de la reconnaissance, c'est un enjeu, bien sûr. Donc il y a des promesses faites qui ne seront jamais tenues. Et c'est quelque chose qui va occuper les relations franco-soviétiques pendant toute la fin des années 20. Mais après, dans les années 30, il y a un nouveau sujet qui apparaît. Parce que, bon, dans les années 20, on ne peut pas dire que la relation franco-soviétique est très bonne, du tout. Les vrais amis des soviétiques à l'époque, ce sont les Allemands. Parce que les Allemands veulent contourner le traité de Versailles, et donc s'associent
aux soviétiques. Mais moins après 33.
Voilà. Ce qui change tout, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et le tour immédiatement très anticommuniste et très anti-soviétique qui est pris par Hitler. Et donc, à partir de là, l'Union soviétique va tenter... finalement, d'intégrer un concert européen. Elle va rentrer à la Société des Nations, soutenue par Bartou, qui était le ministre des Affaires étrangères de la République française à l'époque, et qui, lui, voudrait renouer avec une forme d'alliance de revers, donc voudrait renouer avec l'alliance franco-russe, mais sans le dire, parce que les alliances, à l'époque...
Oui, c'est la Première Guerre mondiale.
C'est très très mal vu, c'est considéré comme l'origine de la guerre, et donc... On parle que de pactes d'assistance mutuelle, de choses comme ça.
Et comme vous m'avez dit il y a quelques minutes que le cartel des gauches va aider à l'amélioration des relations entre la France et l'URSS, l'arrivée du Front populaire en 1936, avec non pas des ministres communistes, mais des communistes qui soutiennent le gouvernement, a le même résultat.
Bah, disons que même l'année d'avant, il y a déjà eu un pacte d'assistance mutuelle signé entre la France et l'URSS en 1935, alors que c'est Laval qui est absolument à droite, qui est au pouvoir, mais qui est obligé de gérer ce que Barthou avait lancé en 1934.
Okay. Bon.
Et le Front populaire, effectivement, peut rendre possible une vraie alliance militaire entre la France et l'URSS, sauf que ça ne va pas se faire, d'abord parce que l'URSS, je veux dire, on est en pleine grande terreur et Staline élimine tous les généraux de l'état-major de l'armée rouge.
La purge.
C'est un tout petit peu déstabilisant. Il n'y a quasiment plus de diplomates soviétiques dans les ambassades parce qu'ils ont tous été purgés. Donc, on est quand même dans quelque chose de pas simple. Et puis, très vite, Staline, qui est quand même avant tout anticapitaliste et qui n'aime pas du tout la France, voit surtout la politique d'apaisement qui va culminer à l'époque de la conférence de Munich, lorsque les Français Daladier et Chamberlain en Angleterre vont en fait accepter la demande d'Hitler des Sudètes tchécoslovaques au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Et au nom de « faut calmer la bête » et après c'est promis, il n'y aura plus jamais de conquête hitlérienne.
Mais avec l'idée que tant que Hitler ne demande que des territoires peuplés d'Allemands, après tout, c'est logique, on est dans le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Évidemment, on peut faire le parallèle avec la Crimée et l'Ukraine de l'Est. Hein. Et en fait, c'est totalement erroné, puisqu'en mars 1939, Hitler annexera le reste de la Tchécoslovaquie. Mais du coup...
Mais c'est perçu, en tout cas, Munich est perçu par les Soviétiques comme une nouvelle trahison française et anglaise, mais française en l'occurrence dans notre conversation, ils nous abandonnent et on se retrouve un peu seul face à l'Allemagne éventuellement, c'est ça ?
Oui, il y a cette peur du fait que les Occidentaux et les Français notamment poussent en fait Hitler vers l'Est pour essayer de détourner l'agressivité hitlérienne. Et de ce fait, Staline, mais qui a déjà ça en tête depuis un moment, essaye, parce qu'il fait des sondages réguliers, essaye finalement d'obtenir ce qu'il veut, mais cette fois-ci de Hitler. Lui, ce qu'il veut, c'est en fait s'étendre, créer ce que j'ai pu appeler dans un livre précédent la frontière épaisse. Lui, ce qu'il veut, c'est déplacer sa frontière en Europe orientale pour éloigner la menace, mais aussi pour conquérir. Hein. Donc, c'est le pacte germano-soviétique en août 1939 qui va en fait diviser l'Europe orientale entre Hitler et Staline. Et c'est la conquête de la Pologne orientale.
Mais là, c'est la trahison, c'est l'inverse. C'est les Français qui se disent avoir été trahis par les Soviétiques.
Et là, ce sont les Français qui se sentent trahis, et notamment les communistes français, qui avaient été les fers de lance de l'antifascisme pendant les années 30, qui avaient participé dans des brigades de volontaires à la guerre d'Espagne du côté des antifascistes contre les franquistes. Oui. Et donc, il y a beaucoup de communistes du Parti communiste français qui vont rendre leur carte du parti à la suite du pacte germano-soviétique
en
1939.
Mais pas après le texte de Gide que j'ai lu au début. C'est-à-dire qu'il a fallu ça pour que des communistes disent « ce régime n'est peut-être pas celui qu'on imaginait être », c'est ça ?
Oui, le pacte germano-soviétique entraîne de fortes désillusions pour une partie des communistes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas déjà qui avaient effectivement pas supporté la Grande Terreur ou même des tas de choses qui s'étaient passées pendant la période dite du socialisme dans un seul pays et la construction de Staline.
Mais la victoire face à l'Allemagne nazie, après la rupture du pacte germano-soviétique, voulu en fait par Hitler, qui tente de conquérir l'URSS à partir de juin 1941, va réhabiliter l'image de l'URSS, notamment en France. Ça sera l'objet de notre prochain épisode. France-Russie, anatomie d'une passion, un podcast original de France Inter.